Chapitre 48. Bureau 514. Les touches des machines à écrire claquaient. Le fax crachotait ses sempiternelles langues de papier. Les voix s'élevaient au téléphone. Santucci et son équipe étaient revenus de chez Scotty dans l'après-midi et mettaient les rapports à plat. Cette fois, le Corse ne s'était pas battu pour récupérer l'affaire. La zone de la découverte du cadavre était sous la compétence de la PJ de l'Essonne. Les collègues du département voisin allaient donc enquêter sur le meurtre de Félix Scotty et les tenir informés de leurs avancées. Ce qui était sûr, c'était que le trafiquant d'animaux n'avait pas été épargné par son assassin. Le légiste dépêché sur les lieux avait relevé 14 morsures sur l'ensemble du corps, ce qui signifiait que le serpent avait été excité pour attaquer alors même que Scotty refroidissait sans doute déjà. Le reptile avait ensuite eu la tête fracassée. Charcot essayait encore d'imaginer la façon dont le criminel s'y était pris pour tuer le mamba et l'enfoncer sur plus de 40 centimètres dans la gorge de sa victime, jusqu'à l'estomac. Un tel acte dépassait l'entendement. La présence de la poupée vaudou était une signature. Elle désignait la Beaucor comme auteur de crime. Comment la sorcière avait-elle pu être au courant si rapidement? Scotty avait-il paniqué après leur visite et lui avait-il, d'une manière ou d'une autre, mis la puce à l'oreille? Ou y avait-il quelque chose de l'ordre du mysticisme qui impliquait que la prêtresse vaudou avait su? En tout cas, elle ne s'était pas donné la peine de faire croire à un accident. Elle voulait que eux, les flics, comprennent à qui ils avaient affaire. Une adversaire qui ne les craignait pas, capable des pires sévices et prête à éliminer tous ceux qui se dresseraient sur sa route. Le glaive entra dans le bureau au pas de course. Il punaisa son plan constellé de croix au mur, à côté des photos des gamins, ainsi qu'une feuille noircie de lignes tapée à la machine. En guise de titre, il avait inscrit « Serrurerie ».
« Où est le patron ?»«
Il ne va pas tarder. Un de ses anciens collègues a des infos pour nous », répliqua Florence qui mangeait un yaourt.
« Bon, j'ai ici 41 adresses de serrurerie réparties dans les 9e, 10e et 18e, les arrondissements où est intervenu le méticuleux sous cette casquette. Malheureusement, des 4 personnes que j'ai pu interroger, aucune n'a conservé de facture. »
De la pointe de son stylo, il indiqua la rue de Navarin sur le plan.
« Catherine Martinage, la femme que j'ai auditionnée ce matin, vient de me le confirmer. Elle avait, en juillet 88, cherché un professionnel dans l'annuaire du 9e arrondissement. Ça réduit le nombre d'entreprises à 17. »
Il agita son stylo comme s'il s'adressait à une classe d'étudiants.
« Mais on peut faire encore mieux, car parmi ces 17 entreprises, seules 10 figurent dans les pages jaunes des 9e, 10e et 18e, afin de toucher une clientèle plus large. Ce sont celles-là qui sont à privilégier. Je les ai soulignées en rouge. »
Il y eut un silence rempli d'ondes positives. C'était une sacrée bonne nouvelle.
Quel est le profil de notre individu exactement? Demanda Serge.
Je n'ai pas grand-chose. La mémoire des témoins est très approximative. Ils ont tous payé en liquide, peut-être parce que le type n'acceptait pas l'échec. Pas de souvenir de facture, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. C'est un homme, barbe noire à l'époque, mais rien n'empêche qu'il soit aujourd'hui aussi imberbe qu'un bambin. Pour l'un, il avait des lunettes, pour un autre, non. Concernant l'âge, on tourne entre 25 et 40 berges. Finalement, la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il a effectué des réparations aux 4 adresses que j'ai signalées sur la carte et qu'il a de bonnes chances d'être employé dans l'une de ces 10 sociétés.
Serge s'approcha et parcourut la liste des yeux.
« Ça doit faire un paquet de gens. Faut organiser un premier tri. »
Le glaive approuva d'un hochement de tête.
« J'y ai pensé. On les visite une par une, on pose des bonnes questions d'abord, on se coltine aussi les registres de comptabilité et les listings clients si elles en possèdent. En théorie, il doit y avoir une trace des factures. On va vite mettre ça en place, c'est la piste la plus sérieuse qu'on ait. »
On n'oublie pas que le méticuleux est également relié au monde de la magie, rappela Florence en jetant son pot vide à la poubelle.
J'ai appelé le cabaret, là, le millionnaire. Le patron prétend ne pas avoir les coordonnées de cette Circé. Il la rémunère en espèces à chaque prestation et ne semble pas très regardant au niveau administratif. Mais elle s'y produit ce soir de 22h à 23h. Je compte y faire un tour pour la rencontrer.
Santucci arriva alors, accompagné d'un homme d'une 50aine d'années, au crâne luisant en forme de pain de sucre, râblé et vêtu d'un épais gilet irlandais.
« Je ne sais pas si vous connaissez Paul Grimaud, alias Polo, » fit le Corse. « Plus de 20 ans à la mondaine, dont 10 en commun avec moi. Il a des choses à nous raconter sur ces histoires de vaudou. »
Santucci gratifia son collègue d'un geste amical dans le dos. Ce dernier tenait une fine pochette sous le bras. Il s'assit sur le bureau du chef de groupe.
Les sorciers et les gris-gris sont de retour, j'ai l'impression. On a déjà été confrontés au vaudou dans une affaire bien sordide de traite d'êtres humains. Ça remonte à l'année 84, juste avant l'enquête d'insalubrité publique dans le quartier de la Goutte d'Or.
La Goutte d'Or. Franck en avait entendu parler. L'Afrique à Paris. Maliens, Congolais, Sénégalais, Maghrébins. Tous s'y entassaient dans des conditions déplorables et s'y adonnaient à nombre de trafics. Une sorte de condensé des pires déviances entre bordel clandestin et vente de drogue.
Ça a commencé par une jeune immigrée d'Afrique noire qu'on avait retrouvée morte et rouée de coups du côté de Saint-Ouen. En plus d'avoir été défigurée, elle avait eu la chatte défoncée avec des tessons de bouteille. La PJ du 93 a été saisie, mais ils se sont vite mis en contact avec nous parce qu'on bossait sur les filières de prostitution africaine. Au fil des semaines, nos investigations nous ont conduits jusqu'à une famille qui tenait une boucherie halal à la Goutte d'Or. En réalité, ce commerce n'était qu'une façade. Les deux frères, des Africains, s'occupaient de ramener illégalement les filles du pays. La sœur, un engin qui pesait dans les 100 kilos, jouait les matrones. Cette garce maintenait leurs victimes enfermées dans un taudis au-dessus de leur boutique et les frappait avec une matraque. Pour compléter le tableau, il y avait le mari, Philomé Zéphirin, un sorcier haïtien, aussi maigre que sa femme était grosse. Une gueule de monstre tout droit sortie d'un film d'horreur. Pour éviter toute rébellion de la part des filles, il menaçait de lancer des sorts à leurs proches. Grimaud se leva et sortit des photos de son dossier, qu'il distribua. Régulièrement, il organisait des rites avec costumes, masques, transes et tout le tralala. Il réalisait aussi des sacrifices d'animaux. Poules, moutons, pigeons, chèvres, un vrai bain de sang. Ça peut prêter à rire, mais c'était largement plus efficace que n'importe quelle matraque. Les gosses croyaient dur comme fer en ces choses-là. La plupart étaient issus de tribus où la sorcellerie a une vraie place culturelle. Elles étaient terrorisées et obéissaient ainsi au doigt et à l'œil. Les mecs qui entraient dans la boucherie ne faisaient pas qu'acheter de la viande, vous m'avez compris. Les gamines encaissaient jusqu'à 80 passes par jour chacune, avec une clientèle d'ouvriers venus du Maghreb ou d'Afrique noire. Pas les plus tendres, si vous voyez ce que je veux dire. Charcot plissa le nez lorsqu'il découvrit les images. Les carcasses de bêtes mortes, les chambres insalubres, les matelas tachés de crasse et de foutre, où ces pauvres filles avaient morflé toutes les 10 minutes. Sur un autre cliché, il observa le portrait de face et de profil de Zéphirin. Des yeux noirs et lubriques, plantés dans un visage constellé de cratères et de cicatrices. Cette enquête nous a poussé à fouiner du côté des communautés haïtiennes, indiqua Grimaud. Les Haïtiens sont quelques dizaines de milliers en France, dont un bon paquet réparti dans la banlieue et Paris, notamment à la Goutte d'Or. Le vaudou est bel et bien pratiqué sur notre sol, avec ses codes, sa hiérarchie, mais vous vous en doutez, c'est difficile de savoir précisément de quoi il retourne. C'est une religion initiatique basée sur le secret. En tout cas, il existe de vrais temples destinés aux cérémonies, pour beaucoup planqués dans des caves de maison, à l'abri des voisins, parce que les bestiaux s'agueulent quand tu les égorges. Pour leur rituel, ces gens se fournissent surtout dans des boutiques de Belleville, où font importer leurs produits de l'étranger. Des croyants paient cher pour assister à ces offices ou solliciter les services des prêtres pour des ensorcellements, ce genre de conneries. Bref, une organisation bien ficelée, la plupart du temps clandestine, qui permet à ces populations de pratiquer leur culte en dehors d'Haïti. Santucci servit un café à son ancien collègue. Alors que celui-ci buvait une gorgée, le glaive s'approcha de son plan et désigna les croix. Si on regarde bien, les adresses de nos témoins sont localisées autour de la Goutte d'Or. Ma liste d'entreprises de serrurerie en contient même une ou deux au cœur de ce quartier. Pas impossible que notre méticuleux passe ses journées dans ce coin-là. Et ça pourrait expliquer sa proximité avec le milieu vaudou, intervint Serge. Il connaît la sorcière, a accès à de la TTX. À mon avis, il n'est pas dans le secteur qu'en journée. Il y vit, il habite dans l'une de ses rues. Il côtoie les Haïtiens. Le glaive approuva, mais Florence marqua son désaccord. Il a dépensé une petite fortune à envoyer tous ses exemplaires des Fleurs du Mal, et il logerait dans l'un des taudis de la Goutte d'Or. Ça colle mal avec l'image que je me fais du personnage. Paul Grimaud s'éclaircit la voix et reprit la parole. Je ne sais rien de votre homme et me garderai bien de vous donner mon opinion sur cette question, mais je suis sûr que vous ne perdrez pas votre temps en creusant par là-bas. Si vous avez encore des doutes, laissez-moi revenir une minute sur mon sorcier haïtien. Zéphirin était ce qu'on appelle un Ougan, un prêtre vaudou qui n'avait jamais mis les pieds en Haïti. Ses parents, des Haïtiens pur jus, faisaient partie de ces troupes folkloriques qui parcouraient le monde dans les années 40 et dont certaines se sont installées en France. C'est donc ici, chez nous, qu'il s'est formé au culte vaudou. Quand j'ai voulu découvrir qu'il avait initié, j'ai vu la peur sur son visage. Franchement, un truc pas rationnel. Il racontait que s'il parlait, la Bokor viendrait lui prendre son âme, même au fond de sa cellule. Je vous garantis que le gars était pétrifié. La Bokor, répéta Serge. La prêtresse maléfique. C'est elle la sorcière qu'on cherche. Il t'a donné son identité? Non. On n'enquêtait pas sur le vaudou, mais sur une filière de traite d'êtres humains, alors j'ai pas poussé plus loin. De toute façon, il n'aurait jamais coopéré, c'était évident. Zéphirin est toujours en tôle? Demanda Santucci. J'ai appris qu'il était dehors depuis un an ou deux. Il a eu une peine plus légère que les autres. Il n'était pas l'assassin de la fille retrouvée à Saint-Ouen et ne gérait pas le réseau de prostitution. Non, ce salopard se contentait de terroriser les gamines et de tuer des animaux. Sa femme et les deux frères ont pris cher, par contre. Une idée de l'endroit où il crèche ? Il est retourné à la Goutte d'Or, mais je ne sais pas où exactement. Je peux activer l'un de mes indics du quartier. C'est un Cubain qui a l'œil partout. Faudra juste lui sortir un peu de coke pour la rétribution. 30 grammes, ça devrait suffire. Le Corse fit crisser les poils de sa barbe. 20. Grimaud lui adressa un sourire. Même là-dessus, tu négocies. T'auras le produit pour ce soir ? D'ici 2 heures. Ok. Comme vous êtes pressé, on va faire ça en urgence. J'essaie de contacter mon indic tout de suite, savoir s'il peut obtenir l'info avant ce soir. Si oui, on fixe le rendez-vous à 21h30 à l'angle de la rue Poulet et du boulevard Barbès, en face de la station Château-Rouge. Devant le coiffeur. Il est méfiant comme un lièvre un jour de chasse et il ne viendra pas si ça sent trop la flicaille. Santucci jeta un œil à son groupe. Puis il pointa Franck et Florence. Il y aura un couple de blancs-becs qui zonera dans le coin. C'est de là. Paul Grimaud acquiesça. Parfait. Qu'ils prennent la cam sur eux. Je te confirme tout ça rapidement. Merci, Polo. Main sur l'épaule, il leur accompagna jusqu'à l'entrée du bureau. Franck et Florence échangèrent un regard incrédule. Le Corse revint vers son équipe et consulta sa montre. On se chargera des serruriers demain. Priorité à la sorcière. Je vais voir les stupes pour la coke. Il observa le tableau noirci de notes, le plan accroché, les photos, le puzzle complexe de l'enquête, fruit de centaines d'heures de travail, et un petit air satisfait se dessina sur son visage. Beau corps ou pas, on va se la faire.